La planèse du jazz, Laurent et Pascal Verdoux.
Bonsoir à tous.
Bonsoir.
L'émission d'aujourd'hui est consacrée aux sources d'énergie. Nous avons pensé que c'était un petit peu à propos d'une certaine actualité que nous découvrons tous les matins en regardant du côté de l'Est.
Eh oui, on s'aperçoit, on ne va pas faire de politique, on n'est pas là pour ça, oh là là, grand Dieu, non. Mais on s'aperçoit que l'énergie, finalement, elle décide de tout. Les problèmes, les gens se battent, et pour ci, et pour ça, pourquoi ? Pour avoir le monopole de l'énergie. On s'est dit quand même, d'abord il y a beaucoup d'énergie dans le jazz.
Tout à fait. Et là donc, naturellement, nous parlons de l'énergie, mais non seulement de ses sources, mais aussi de son transport, de sa fourniture, enfin tout ce que vous pouvez imaginer. Et également une sorte de version moderne d'une vieille comptine qui parle de se tenir par la barbichette. Comme tu disais, le jazz est une musique pleine d'énergie, alors c'est même une de ses grandes caractéristiques, hein, c'est la transmission d'une émotion par la voix d'une énergie. Et nous allons aborder cette énergie des deux côtés à la fois, puisque voici un musicien éminemment énergétique qui s'appelle
Earl Bostick,
qu'il va jouer un morceau qui s'appelle
Tim Whistle Jump,
et nous voilà devant une des toutes premières sources d'énergie qui a été exploitée, la vapeur.
Et oui, notre ami c'est... Papin n'est pas loin.
Eh ben non, c'est le sifflet du train ou des bateaux sur le grand fleuve. Mais il faut aussi savoir que Bostick était natif de Tulsa qui est une ville célèbre pour la découverte d'une gigantesque quantité de pétrole à l'époque où on a commencé à construire des derricks.
Alors vous voyez, vapeur, pétrole, on est en plein là-dedans.
On est en plein dedans et ben, il ne reste plus qu'à vous passer le morceau.
Thank you. imaginez-vous que Jelly Roll Morton, le pianiste célèbre, qui avait un esprit un peu pointu.
Très pointu, très pointu.
Avait comme manager un homme qui avait acheté des actions chez Esso, ce qu'on appelait en Amérique...
La Standard Oil.
Et alors, chaque fois qu'il voyait approcher son manager, il lui disait « Hey, hi, oil well !» Ce qui veut dire « Hey, le puits de pétrole !»
Tiens, voilà le puits de pétrole. Le manager qui s'appelait Harrison Smith ne s'est jamais offusqué de la chose, mais peut-être est-ce lui qui a exigé qu'elle soit alors concrétisée par un hommage enregistré. C'est pourquoi le morceau de Jelly Roll Morton « And His Red Hot Peppers » que vous allez entendre maintenant s'appelle naturellement
« Oil Well ». Le suivant, ben c'est encore un oil well, mais alors là, au Texas.
Oui, là, c'est plus un surnom, c'est un constat. Ce constat est fait par Louis Jordan et son orchestre, dont on ne dira jamais assez que vous avez là le pionnier, le précurseur du rock'n'roll des années 50, des années Presley. Et celui de Jordan, eh bien, il exalte les vertus du pétrole texan, tout en évoquant tous les autres états où on peut en trouver. Alors, ça fait une sorte de ronde, c'est assez amusant.
Et vous pourrez remarquer que les Américains n'ont aucun scrupule à se vanter de leur puits de pétrole. C'est très utile, un puits de pétrole, mais ce n'est pas forcément très joli dans le paysage. Oh, mais eux, ils s'en fichent. Ça marche.
D'ailleurs, ils s'en fichent d'autant plus que la présence de Derrick, serrés les uns contre les autres, à un endroit quelconque, dénotait non pas la pollution ou je ne sais quelle misère ouvrière, mais la grande fierté d'être les meilleurs et les plus gros producteurs. Et puis voilà, l'Amérique, c'est comme ça. Hein. Et d'ailleurs, Lou Jordan a l'air assez d'accord là-dessus. Voici Oil Well, Texas. Texas.
Going to Orwell, Texas, cross the river from Hello, Arkansas. Going to Orwell, Texas, going to Orwell, Texas,
Going to Orwell, Texas, cross the river from Hello, Arkansas. Gold flows like a river in a never-ending stream. The things it can deliver is the answer to your baby's dream. Down in Orwell, Texas, going to Orwell, Texas, going to Orwell, Texas, cross the river from Hello, Arkansas. Hello, hello,
hello, hello,
hello, hello,
hello, hello,
hello, hello,
hello, hello,
hello, Arkansas. Hello.
A bigger state on every square. Going to Orwell, Texas.
Five, five.
Going to Orwell, Texas.
Five, five.
Going to Orwell, Texas. Cross the river from Hello, Arkansas. Broken Bow, Oklahoma.
Roll on, roll on.
Chitlin' Switch, Georgia.
Roll on, roll on.
Shut up, Mississippi.
Roll on, roll on.
Break in, Louisiana.
Roll on, roll on.
Scram, Alabama.
Roll on, roll on.
Going
roll
to Orwell, Texas. Cross the river from Hello, Arkansas.
Le morceau suivant nous ramène de nouveau au pétrole texan.
Ah oui, mais là, c'est tout à fait normal. Parce que celui qui joue Texas Oil, le morceau que nous allons vous faire entendre, c'est Freddie King. Et c'était un texan.
Un bluesman texan. Alors vous savez, nous l'avons souvent dit à cette antenne, les gens du Texas, dans le jazz comme dans le blues, ce sont des spéciaux.
Celui-là, déjà, rien que son physique, c'était assez étonnant. On a une photo de lui qui est assez caractéristique, vous voyez ? Un énorme bazar avec une bonne bouille ronde qui tire sa valise à roulette. Il devait être devant une gare ou quelque chose comme ça. Et on a l'impression que la valise à roulette est un jouet d'enfant.
Ah oui, oui, ça va. C'est impressionnant. C'était un énorme bonhomme, chanteur, guitariste, qui a eu son heure de gloire dans les années 60 d'ailleurs. Freddie King était un type très connu. Et naturellement, ce qu'il va nous chanter sur le pétrole texan n'est pas pour dénigrer le produit.
Thank you.
Voici maintenant un personnage hors série qui s'appelait Eddie Vinson, dont le surnom était
Clean Head.
Il n'avait pas un poil sur le caillou, ça c'est sûr. Et alors Clean Head a toujours été dans cette catégorie qui a un pied dans le jazz et un pied dans le blues, qu'on appelle les blues shouters, c'est-à-dire les crieurs de blues. Alors ceux-là, on les retrouve généralement associés à des big bands comme Jimmy Rushing ou à des formations genre Kansas City avec du jump comme Big Joe Turner ou Jimmy Witherspoon. Mais ce sont des gens assez spéciaux parce qu'ils ont une voix terrible généralement. Alors Vinson, il n'a pas une grosse voix comme Big Joe Turner, mais il a une voix très timbrée, très marquée. Et côté jazz, il joue du saxo alto et il en joue remarquablement bien.
Eh bien nous, cet homme-là, on l'a vu. On l'a vu dans une circonstance un peu particulière puisque c'était à la gare d'Orsay.
Et on avait installé là le salon de la musique.
Avec, il y avait donc un petit orchestre qui faisait un show très, très chouette.
Avec Jim McShane au piano que nous avons également rencontré à cette occasion. Et Eddie Vinson, nous ne le connaissions absolument pas. Quand il a attaqué de jouer de l'alto, on l'a trouvé vraiment excellent. Mais on ne pensait pas qu'il allait chanter, c'était tout à fait
inattendu.
On ignorait totalement qu'il chantait. En fait, il a un répertoire de chants assez important. Il était très populaire dans le public noir, Eddie Vinson.
Il y a un mot que vous connaissez depuis tout à l'heure, c'est oil. Et là, c'est Oil Man Blues.
I'm an oil drilling daddy, and your ground looks very rich. I'm the best driller in these parts, and I've the tools to work it with. When you see me coming, baby, I've got my drilling wrench. Well, when you see me coming, baby, I've got my drilling wrench. Your soil looks very fertile. Striking oil will be a cinch. When your oil starts to flowing, baby, please don't close your door. When your oil starts to flowing, baby, please don't close your door. 'Cause everything is mellow, and I'll be back for more. Now that you're rich, babe, it's no use in saving that gold. Now that you're rich, babe, it's no use in saving that gold. Come on, let's have a ball before that oil starts getting cold.
Voici maintenant une promenade dans le jazz rustique.
C'est le Memphis Jug Band, le jug.
Ah, le jug.
C'est vraiment particulier. C'est un instrument complètement rustique puisque c'est une énorme bouteille de verre que nous appelons une Dame Jeanne.
C'est le détournement de l'objet, en fait.
Voilà, alors elle est vide, évidemment. Et là, il y a un type qui a des bons poumons.
Hein. Ah oui, des bons poumons.
Il souffle sur le bord de la Dame Jeanne, sur le goulot de la bouteille. Donc ça résonne et ça fait vouf, 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 comme
Mais
ça.
Mais vous savez tous faire ça avec une bouteille de vin, d'ailleurs.
Mais là, il faut remplir. Hein.
Ah oui, là, il faut remplir. C'est des bouteilles qui font au moins un gallon. Hein. Et quand je vois la photo, à mon avis, c'est 5 gallons. Et un gallon, c'est 4 litres. et des poussières.
Ça remplace la contrebasse. Ah, ça coûte beaucoup moins cher. Hein.
Ah oui, il n'y a pas de doute. À la limite, ça peut même se voler. Hein. Et alors, dans ce même Fish Jug Band, qui est un orchestre à instruments primitifs, la contrebasse, c'est la Dame Jeanne. Et là, vous avez de la chance, parce que dans ce disque qui vient, on l'entend très bien. Et même, il prend des petits passages où il se met en relief. Et puis, il y a aussi, naturellement, un kazoo, une guitare.
Kazoo, je vous rappelle, c'est un petit bâton creux avec trois gros trous en général. On met de la peau d'oignon dessus. Et puis quand on est bien riche, on met du papier de soie. On souffle dedans.
On chante dedans.
On chante dedans. Ça... C'est très curieux.
C'est très curieux. Mais ce que tu viens de décrire, c'est différent du kazoo du commerce. Car si nos amis veulent acheter un kazoo dans le commerce, ils auront simplement un tube métallique, un petit orifice sur le dessus avec la peau d'oignon. Mais ça ressemble plus à une sorte de cigare métallique qu'au gros kazoo à trois trous.
Voilà, mais celui dont on vous parle, c'est le kazoo d'origine.
Qu'on peut fabriquer soi-même, d'ailleurs. Écrivez-nous, on vous expliquera tout. Il y a également un harmonica. Et tout ça, ça donne une forte atmosphère. Et le morceau s'appelle...
Cold Oil Blues. Cold Oil, ça veut dire...
Le kérosène, c'est le carburant qui fait marcher les avions.
Woke up early this morning, blowed out round my bed, and it blows at you, drowning up red. It day is blue, lay out on your shelf. So tomorrow, sing on to you. And my mother really told me just before I left my home, said, son, you're too young, you're troubled, I know. But my attitude is listening. What my dear old mother said, had I been at home right this long time. Can you tell me, call out Johnny, show me, do I will, pop a tree top tall, show what I'm born in.
What kind of man was he?
Si je vous dis le nom Jazz de Pique.
Oh, ça fait rire. Quelle vieille plaisanterie.
N'est-ce pas ? Allez, devinez de quel pays vient cet orchestre.
Allez. Oh, l'orchestre que nous allons entendre, il est manifestement bien de chez nous.
Mais oui, avec des plaisanteries comme celle-là, ça n'a rien d'étonnant.
Et à l'époque, il y avait aussi les jazz Spirine et les jazz Stico, qui d'ailleurs existent toujours. Ben nous, c'était le jazz de pique, nous étions 18, donc c'était un big band.
De tout petits jeunes gens à l'époque.
Eh oui, c'était bien loin dans le temps maintenant.
Que nous sommes devenus
des musiciens chenus. Et dans ce jazz de pique, il y avait un point d'honneur à faire les arrangements maison. C'est-à-dire que les arrangements étaient le fait soit du pianiste Jean Rothman, chef de l'orchestre, soit du saxo-baryton qui s'appelait Jean Picard, qui était un phénomène absolument incroyable avec le solfège. On aurait dit qu'il habitait dedans. Jean Picard va vous intéresser dans le morceau qui vient parce qu'il a eu l'idée de le fabriquer comme un accordéon. C'est-à-dire que les 12 demi-tons de la gamme se décomposent en 4x3. Il a joué là-dessus.
Alors, je vous préviens que vous aurez une interrogation écrite à la fin de l'émission. Moi, j'ai rien compris, mais...
J'ai dit ça parce que dans nos auditeurs, il y a pas mal de gens qui jouent de l'accordéon et qui savent que les doigtés se suivent du do au mi bémol, au fa dièse, au la et de nouveau au do.
Donc, d'accord.
Jean Picard avait eu cette idée. Il était très original. On pourrait faire comme ça, pouf. Et puis alors lui, prenait son crayon, son papier à musique et c'était parti. Et puis quand il nous a livré ça et qu'on l'a joué, on s'est bien amusé d'abord. Nous avions un saxo-ténor qui est devenu très célèbre, qui s'appelle André Villéger, que vous allez entendre dans ce morceau. Un trompettiste qui s'appelait Daniel Torel, qui était très bon. Et le morceau avait été appelé par son auteur, parce qu'il l'avait également composé, figurez-vous.
Il s'était donné un peu d'anglais, là. Hein.
Ah oui.
Feet in the fuel.
C'est-à-dire les pieds dans le pétrole. Comprenne qui pourra.
Thank you.
Comme tu peux voir, tout allait pour le mieux dans cet orchestre.
C'était un grand orchestre de petits jeunes gens qui étaient fous de musique.
Il faut dire aussi qu'on s'est bien amusé pendant les 4 ans où nous sommes restés ensemble.
Un autre grand orchestre maintenant.
Oui, enfin, ce aucun rapport d'échelle, excusez-nous. Il valait mieux d'ailleurs passer celui-là après l'autre. Il s'agit de celui de Duke Ellington.
Évidemment.
Et nous avons découvert un morceau qui a trait au pétrole, puisque le fuel, ça existe aussi. Alors, c'est pas tout à fait du pétrole brut, mais c'est quand même du pétrole. Et le morceau a un nom assez étonnant.
Duke Ellington, aimable plaisantin, mais assez poker face dans le genre. Lui, il avait appelé ça « duel fuel », c'est-à-dire « duel fuel ». Traduction en français, vous voyez.
Oui, mais comme ils sont deux batteurs, il a appelé ça « double » aussi, donc « dual ». Alors, comme il ne savait plus comment choisir entre « dual » et « duel », il a écrit « dual ». Puis alors après, comprenez si vous pouvez, hein. Et là, donc, les deux batteurs coexistent, c'est Jimmy Johnson et Sam Woodyard. On ne peut pas passer tout ce morceau en entier, parce qu'en fait, c'est un opus en 3 parties. Nous en avons pris l'extrait le plus radiophonique.
Et maintenant, Coal Cart Blues. Le blues de la petite charrette à charbon. Parce que figurez-vous que Louis Armstrong, à partir de l'âge de 14 ans, il gagnait sa vie. Soit en jouant de la trompette, parce qu'il a très vite été reconnu comme un musicien remarquable malgré son jeune âge, soit il tirait la charrette à charbon.
Notre ami Louis Armstrong, le père de tous les jazzmen, ben, il a commencé par être une sorte de commis de Bounia.
On se sent proche de cet Américain qui pourrait être un Auvergnat.
Eh oui, c'est son côté arverne, Louis Armstrong. Et donc, il a composé, en souvenir de cette époque, un morceau qui s'appelle Coal Cart Blues, qu'il a enregistré avec Sidney Bechet. Il faut dire que les deux grands de la Nouvelle-Orléans, Louis Armstrong et Sidney Bechet, ne se sont rencontrés au studio que deux fois. Une fois en 1924 et une fois en 1940.
Vous voyez, donc ça c'est assez rare.
C'est plus que rare. Voici donc ces deux grands messieurs en train de conjuguer leurs efforts pour tirer la charrette du Coal Cart Blues.
those cold card blues. I'm really all confused. I'm about to lose my very mind. It always worry me all the time. These blues will make you cry. Feel just like you don't want to scream. Of course the cart was hard and it almost killed me up. But just to leave it go, boy, it was my cup. I've got those cold card blues. Hell, I really don't know what to do.
Armstrong livrait le charbon, mais où est-ce qu'il allait le chercher ? Eh bien, il allait le chercher sur le quai où les bateaux le déchargeaient. Le quai, ça s'appelle le yard.
Et l'endroit où on décharge le charbon dans le port, ça s'appelle le coal yard. Et le moment où les types ont fini leur travail et vont se donner du bon temps, eh bien, c'est le moment où le coal yard devient joyeux et où on peut écrire un morceau qui s'appelle
Coal Yard Shuffle.
Et ce morceau, nous l'avons trouvé dans le répertoire d'un orchestre.
Pas très connu, franchement.
Hein, il n'est pas connu. C'était l'orchestre de Joe Steele. Et Joe Steele avait un orchestre avec de bons solistes, mais il avait quelque chose dans la gestion de cet orchestre qui le rendait un peu vieillot. Et en fait, il n'a pas duré à cause de ça. Joe Steele s'est retrouvé pianiste du big band de Chick Webb. Les autres solistes sont allés dans d'autres big bands. Tout ce petit monde s'est retrouvé au Savoy, d'ailleurs, à faire danser les gens. Mais l'orchestre de Joe Steele n'est pas allé plus loin. Donc c'est un peu une curiosité, d'abord de circonstance, puisque le morceau s'appelle Coal Yard
Shuffle,
et que nous sommes en pleine évocation de l'énergie. Rappelons-le, à cause de certaines choses qui se passent. Ah oui, enfin, on n'en reparlera pas, c'est pas la peine. Et aussi parce que, ma foi, bah, c'est une curiosité. Une curiosité, voilà.
Absolument.
Coal Yard Shuffle.
Thank you.
Eh bien, après la vapeur, le pétrole et le charbon, nous avons naturellement cherché l'électricité. Eh bien là, on a été déçus.
Pas complètement, parce qu'on a quand même trouvé quelques renseignements.
Ouais, mais enfin, on a trouvé le lien, le fil qui va nous mener à notre sujet. Mais il faut dire qu'il faut bien suivre. Alors suivez-nous, comment produit-on de l'électricité, entre autres avec des...
barrages.
Et les grands barrages d'Amérique, les plus importants, ont été initiés...
à un moment très particulier, après la crise de 1929, c'était une catastrophe. Hein. Il y avait des millions de gens au chômage, et en particulier les gens modestes, hein, ceux qui travaillaient de leurs mains. Et Roosevelt, le président, a dit « on ne peut pas les laisser comme ça ».
Plus tard, hein, parce qu'il a fallu qu'on les lise d'abord, et oui. ils ont passé quelques années oui. très dures.
Ça a été plus tard. Quand on vous parle de ça, c'est lorsque Roosevelt a pris les choses en main.
Et une des idées qu'il avait, c'était d'organiser une campagne de grands travaux pour remettre tout le monde au travail, et qu'il en sorte quelque chose d'intéressant et de positif. Et il a pensé à l'énergie. Et donc, la politique de Roosevelt a été marquée par la construction de grands barrages, dont le plus célèbre est sur le fleuve Colorado, je crois. Il s'appelle le Boulder Dam. Enfin, j'ai ça de mémoire, j'ai pas vu ça depuis ma sixième, mais je crois que quand même. Et surtout, il y a eu la création de l'autorité de la vallée du Tennessee, qui a tellement fait pour la production d'hydroélectricité que c'est devenu le premier producteur américain d'électricité. Et bien ces barrages, naturellement, nous mènent au New Deal, puisque cette politique s'appelait le New Deal, et nous avons enfin notre fil, car à force de chercher, on n'a rien trouvé sur les barrages ni sur les fils électriques, mais on a trouvé
quelque chose sur le New Deal
qui s'appelle New Deal Blues. Et c'est par Tampa Red. Tampa Red, c'était un chanteur de blues qui était originaire de la Floride, comme son nom l'indique, puisqu'il était né à Tampa et qu'il était rouquin. C'est donc Tampa Red. Il joue de la guitare, il chante, et tout ça, c'est du très bon blues.
Yeah.
dans les films américains...
Ou des BD. Hein.
Ou des BD. Avez-vous vu ces sortes d'éoliennes, les toutes premières éoliennes en métal, avec des pales qui tournent comme ça? C'est très symptomatique du paysage américain sur les grandes plaines.
Oui, on dirait des espèces de grosses roulettes avec tout un tas de pales. Il y a même pas, c'est pas comme des hélices comme les nôtres. Hein. C'est vraiment des, il y a que des pales dans cette roulette. Et l'allure que ça a généralement, ça évoque le puits de pétrole finalement. Et ça ressemble souvent à des petits derricks parce qu'il y a une charpente autour qui les soutient. Et ça sert à pomper l'eau du sous-sol pour irriguer.
Voilà. Voilà. C'est pour ça qu'il y en a eu énormément.
Ce qui est très amusant, c'est qu'une célèbre chaîne de restaurants qui est très marquée Far West ne manque jamais dans son décor, derrière la paire de cornes gigantesques évoquant le bovin texan, de planter un petit derrick avec une éolienne pour bien marquer sa référence.
Américaine, naturellement.
Avec la musique country dedans, enfin nous n'en dirons pas plus, bref. Vous connaissez l'endroit sans doute. Eh bien, cette énergie éolienne, nous nous sommes penchés dessus et nous sommes tombés sur le moulin à vent.
Qu'est-ce qu'il y avait avant les éoliennes? Dites-le-moi. Eh bien, les moulins à vent, naturellement.
Dont les éoliennes ne sont finalement qu'une évolution. Donc nous avons cherché dans cette direction un titre qui conviendrait à la fois à vos oreilles et au thème de l'émission, et nous avons trouvé un morceau qui parle d'un moulin à vent qui s'est cassé.
Eh oui, il n'est peut-être pas en bon état, pas ouf.
Et là, nous avons aussi l'occasion de vous proposer un clarinettiste relativement jeune, puisqu'il a l'âge de nos enfants, figurez-vous.
Oui.
Et ce clarinettiste de la Nouvelle-Orléans, tout à fait remarquable, il s'appelle Evan Christopher. Et avec lui, on sent que l'instrument est en bois. Vous savez, le clarinettiste, hein, ou vous sentez qu'il joue sur un instrument en bois, ou pas. Hein. Si vous le sentez, c'est que c'est un bon. Sinon, c'est qu'il lui reste des progrès à faire. Alors, Evan Christopher, ça sonne ébène de manière absolument exceptionnelle. C'est un très bon musicien.
On va l'entendre en duo avec le pianiste Tom McDermott.
Ce qui est très curieux d'ailleurs, c'est que ça vient d'un disque qui s'appelle Pour danser. Et ces deux-là, ils jouent de tout dedans dans ce disque. Ils jouent relativement peu de jazz, mais on a quand même trouvé ce morceau-là pour vous. The Broken Windmill. Voilà. Eh bien écoutez, nous vous souhaitons de pouvoir le réparer pour la prochaine fois. Et maintenant, pour conclure, nous vous souhaitons...
Bon vent! Thank you.
C'était la planète du jazz.
À la planète prochaine.